Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, un invité revient sur un jour important de sa vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Aujourd'hui, je reçois Alex Croquet. Bonjour Alex Croquet.
Bonjour Zoé.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter.
Alex Croquet, vous êtes boulanger, pâtissier.
Oui, oui.
Mais c'est insuffisant, non, pour vous présenter. Ça ne va pas du tout.
Oui, si. J'étais surtout pâtissier au départ, plus passionné par la pâtisserie, son côté complexe au niveau des recettes, beaucoup de décoration. Je pensais que c'était plus riche. Et puis, tout doucement, j'avais mon sapé de boulanger. J'avais pensé en candidat libre, parce que je trouvais ça moins intéressant. Et après, quand j'ai vraiment démarré le pain dans l'atelier, que je me suis installé, j'ai été attrapé par le vivant. Et je me suis rendu compte que dans le vivant, le quantifiable ne marche pas. C'est la sensibilité. Et donc, il n'y a pas de maîtrise. Et ce côté de moins maîtriser les choses par rapport à la proportion, ça m'a fasciné. Et ça continue à me fasciner.
Alors, c'est pour ça qu'on dit de vous, Alex Croquet, que vous êtes un fou de pain.
Alors, fou de pain, c'est venu de quelques personnes qui sont venues derrière de métiers divers et variés. Ça pouvait être des vignerons, ça pouvait être des journalistes ou des métiers médicaux. Et quand ils sortaient d'atelier, ils voyaient mes vendeuses au magasin. Et puis ils disaient, c'est un fou, mais c'est un fou, votre patron. Ou ils disaient, c'est un bon fou. Ou il y a une fille, elle dit, c'est un fou, mais c'est un bon fou. Et à partir de ce mot, tout le monde dit que j'étais fou, bah, c'est devenu fou de pain.
Fou de pain. Voilà. Et un bon fou, parce que vous avez une bonne tête.
Ouais. Je sais pas. Ouais, bon fou, tant mieux. Hein. J'aime mieux, bon fou, c'est bien.
Et bonne tête aussi, c'est pas mal.
Ouais, ouais, bon, on voit pas trop. Hein. Moi, je vis dans mon atelier. Hein. Au début, on était installé, mon épouse, tous les clients, ils pensaient qu'elle était seule. Parce que vous, qu'on ne voyait jamais, ils pensaient qu'elle s'était installée seule.
Alors, Alex Croquet, vous avez choisi comme journée particulière le 2 janvier 1991. Ce jour-là, vous ouvriez votre première boulangerie à Lille.
Le pain. La surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne, comme si l'on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la cordillère des Andes. Ainsi donc, une masse amorphe en train d'éructer fut glissée pour nous dans le four stellaire où durcissante elle s'est façonnée en vallées, crêtes, ondulations, crevasses. Et tous ces plans, dès lors si nettement articulés, ces dalles minces où la lumière avec application couche ses feux, sans un regard pour la mollesse ignoble sous-jacente. Ce lâche et froid sous-sol que l'on nomme la mie a son tissu pareil à celui des éponges. Feuilles ou fleurs y sont comme des sœurs siamoises soudées par tous les coudes à la fois. Mais brisons-la, car le pain doit être dans notre bouche moins objet de respect que de consommation.
C'est pas mal. Hein.
C'est pas mal, ça vous plaît. C'est Francis Ponge que l'on vient d'entendre.
Ah, c'est Francis Ponge, ouais, oui, d'accord.
Et c'est un poème de Francis Ponge. Alex Croquet, en écoutant ce poème, je me suis demandé, est-ce que faire du pain, c'est faire un monde?
Ah oui, mais de toute façon, le pain est un monde. C'est vivant, on le sent à travers ses mains, parce qu'il y a de la réaction. Il vous répond, il est tenace, il est souple, il est élastique, il est extensible, il colle. On voit qu'il bouge. Si vous l'abandonnez, c'est comme un enfant, mais il continue à vivre. Donc, il faut s'en occuper, même qu'on n'est pas à côté. J'ai toujours l'esprit lié à la fermentation. Et la fermentation, c'est la vie. Et donc, oui, c'est un monde. De toute façon, je dis tout le temps, le levain est un monde. Et quand il rencontre un pain, qu'il soit campagne, seigle, il donne sa vie à un autre espace qui devient un nouveau monde. Il va s'exprimer dans un nouvel espace.
Mais est-ce que c'est des paysages de faire un pain? J'entendais plutôt ça. Est-ce que vous allez faire des montagnes? Vous allez faire des collines? Vous allez faire des étendues molles, des crêtes?
Et dans le poème, c'est exactement, moi, quand j'explique le pain, je dis au pain, on met au four un pain vivant. Et le four, son rôle, c'est de solidifier le vivant. Et donc, l'expression du pain, moi, je dis toujours, il faut mettre un bouton de rose au four et il va se développer et devenir une rose. Et c'est ce développement qui va craquer, qui va être l'esthétique du pain. Ça va être sa signature. C'est pas la signature du boulanger. Quand on met un pain au four où il n'y a pas eu de coup de lame, son expression au four, ce développement qui va se faire par la fin de vie de la fermentation et le développement de l'eau à l'état gazeux, qui va pousser la croûte, comme il expliquait Monsieur Ponge, et qui va faire toutes ces crevasses, toutes les couleurs qui vont apparaître, puisque chaque couleur est un regard sur un pain. Chaque couleur est un son. Chaque couleur est un goût. Chaque couleur est un parfum. Chaque couleur est une texture. Donc, c'est ça l'intérêt du four. Quand ça solidifie, je dis, c'est comme un volcan qui était en mouvement, puis d'un coup, il se solidifie, et on voit tous ces arêtes, ces rochers, tout ça. Et un pain, ça ressemble à ça.
Oh, alors, vous sentez vos pains? Vous les humez?
Ah, mais surtout quand on défourne une grosse quantité de pain. Alors là, au niveau des volatiles, j'appelle ça les petits papillons aromatiques du pain qui viennent vers nous. C'est extraordinaire. Je vais vous surprendre, mais des fois, quand on sort du pain de campagne, on n'ose pas le dire avec mes gars dans l'atelier, mais on dit, ça sent le cassoulet. Et des fois, les pains de campagne, ils sentent le cassoulet. Mais on a vraiment l'impression de... Alors que c'est pas logique, il n'y a pas ça dans le pain. Et puis, ça peut sentir le miel, alors qu'il n'y a pas de miel. Et ça, c'est la magie de la fermentation. C'est l'invisible qui s'assoit sur le réel. Parce que, concrètement, on sait ce qu'on a mis dans le pain. Donc, on devrait retrouver ce qu'on a mis. Et il y a quelque chose qui apparaît. Et ça, c'est la magie de la fermentation.
Et là, par exemple, si on brise un pain, on va sentir des choses...
Ah ben justement, là, j'ai le pain de campagne. Si je brise... J'ai des croûtes rustiques, hein. Donc il faut de la force, parce que j'ai des croûtes profondes. Moi, j'aime bien les croûtes profondes. Vous savez que comme le ciel, quand on regarde le ciel et la mer, on ne sait pas si le ciel bleu s'arrête ou la mer bleue s'arrête. On ne trouve pas la frontière. Et j'adore les croûtes où on ne sait pas quand elles disparaissent dans la mie. On passe des couleurs très foncées aux ocres, ouais, aux jaunes, et presque à la mie, mais on ne sait pas où est la frontière.
Là, vous le respirez, et alors, ça sent quoi?
Chaque jour, c'est différent, hein. Alors, là, j'ai une belle acidité au nez, donc du volatile. J'ai des notes de foin mouillé, de paille. On est derrière la moissonneuse batteuse. Là. On sent qu'on est sur des céréales. Ensuite, j'ai des petites notes viandées. Comme tout à l'heure, j'ai des cassoulets. Mais j'ai des petites notes, ce qui est étonnant, parce qu'il n'y a pas de viande dans le pain. j'ai des petites notes viandées, épicées, épices blancs. Parce que c'est un pain de campagne, donc il y a un peu de seigle. Donc il faut que le seigle y parle. L'intérêt d'un pain aussi, bon là on est sur un pain de campagne, c'est que tous les auteurs doivent s'exprimer. Si j'ai que mon levain qui s'exprime... c'est que le vivant, il s'est assis sur la matière. Donc, quel est l'intérêt d'avoir amené un pain de campagne? Tous mes pains ont le même trait de caractère. Ça, c'est ma grande peur. J'ai eu cette période. Hein. J'ai eu cette période, j'étais tellement tombé amoureux de la fermentation que toute expression de vie, je l'esthétisais.
Oui. Alors ça, on va en reparler un peu plus tard. Mais alors, ce 2 janvier 1991, vous ouvrez votre première boulangerie. Vous aviez quel âge, Alex Croquet?
27 ans.
27 ans, c'était votre première boulangerie?
Ah ouais. C'était, puis j'avais la peur au ventre.
Pourquoi?
On se rend pas compte, mais quand on travaille chez un patron, tout gentil, mon patron était charmant.
Parce qu'avant, vous étiez chez un patron.
Mais la matière première, c'est pas moi qui l'achète, c'est pas moi qui... J'étais responsable de faire du bon boulot, mais c'est pas... Là, tout vous appartient avec mon épouse. Et mon premier sac de farine était minuit. Et je mets la ruf, c'est l'appel du boulanger. Hein. Et je mets ma ruf, et je sors 2-3 kilos de farine, puis je mets dans le pétrin, et je me dis... Ah, faut que fasse du bon pain, faut que j'y arrive là. L'endettement, les emprunts, j'ai l'entreprise à faire tourner. J'avais pas de salarié, hein. On était qu'à deux, mais c'était une grosse angoisse. Quand j'ai descendu l'escalier, mon premier pétrin, la première ruf de farine, je ne l'oublierai pas en 91. C'était le 2 janvier, et ça c'est marquant, ça me reste.
Et Alex Croquet, vous fabriquez vos premières baguettes, et puis les premiers clients arrivent.
Oui.
Alors?
Et ça a été le succès, franchement, on a manqué, les premiers dimanches, on manquait de tout, de croissants, de pain, je tombais toujours en panne. Même les clients disaient, Monsieur Croquet, il faut vendre des chaussures pour remplir votre magasin. Il était toujours vide. Donc, vous voyez, c'est une réflexion que j'ai pas oubliée.
Mais alors, en 1991, Alex Croquet, vous étiez loin d'imaginer que vous alliez devenir l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui.
Ah,
c'est-à-dire
oui.
Une sorte de ce fou de pain. Une sorte d'alchimiste du pain, ça vous n'en aviez encore aucune idée, c'était le tout début. Est-ce que vous vous souvenez, Alex Croquet, le groupe de rock qui a marqué l'année 1991?
Alors 1991, le groupe de rock qui m'a marqué, 91.
Vous donnez votre langue au chat?
Ouais.
c'était
Nirvana.
Bravo. Le 2 janvier 1991, c'est votre journée particulière, Alex Croquet. Ce jour-là, donc, vous ouvriez votre boulangerie, votre première boulangerie, et la guerre du Golfe était imminente. Vous vous en souvenez?
Oui, parce que j'écoute que la radio depuis tout le temps. C'est une de mes grandes nourritures. Et d'entendre sans arrêt les informations sur la guerre du Golfe, la mort de Gainsbourg aussi, c'était pas très gai comme information. Quand on s'installe, on est déjà très inquiet. Et en plus, il fait froid, c'est le mois de janvier.
Ah oui, c'est assez ça. C'est-à-dire que la guerre, vous étiez déjà très inquiet pour votre avenir à cause de tous ces crédits. Et la guerre, en
plus,
ça vous plombait.
Bah oui, ça m'inquiétait beaucoup. Puis en plus, moi, c'est pas ma tasse de thé, tout ce qui est finance, banque, tout ça. Je m'en suis vite libéré. C'est mon épouse qui sait. Mon épouse est pragmatique. Moi, je suis...
Vous êtes un rêveur. Alors, vous vous souvenez peut-être que le 16 janvier 1991, Alex Croquet, le président François Mitterrand annonçait que la France était entrée en guerre contre l'Irak aux côtés des Alliés, que le lendemain, le 17 janvier, c'était le début de l'opération Tempête du désert. Vous en souvenez tout ça?
Ah oui. Puis c'était permanent. Puis moi, on fait des grandes journées, les boulangers, on fait des 12 heures, donc, et les informations le tournent en boucle. Donc ça, c'était assez stressant.
Est-ce que vous vous souvenez que les Français faisaient des provisions?
Dans les épiceries, les rayons continuent de se vider. Huile et sucre sont bourrés dans les caddies. C'est vrai dans les grandes villes, comme dans les petits villages. Écoutez par exemple ce commerçant de Vertolaye, dans le Puy-de-Dôme. Il préfère voir cela d'un œil ironique.
Vous savez, moi je commande 30 kilos de sucre par semaine en morceaux, une vingtaine de kilos en poudre, et ça me fait la semaine. Mais alors, cette semaine-ci, je ferai pas la semaine jusqu'à vendredi.
Qui achète plus en ce moment? C'est les personnes âgées ou les jeunes ou tout le monde?
C'est dans les moitiés âges, là, ceux qui ont connu les privations de l'autre guerre. Les jeunes, on n'en a pas vu qui fassent famine. Et dans les personnes âgées, ils ont tendance à vouloir demander à faire des stocks un petit peu. Ils ont toujours des bonnes raisons, on fait des frites, on fait... Il y en avait même un qui m'a demandé, il m'a dit qu'il voulait du sucre pour faire de la confiture. J'ai dit, il n'y a pas grand-chose comme fruits en ce moment. Il dit, si on a des coins. Oui, alors s'ils ont des coins, il faut bien qu'ils les fassent cuire.
Oui, c'est vrai, maintenant je me rappelle, mais c'est vrai que c'était une période assez particulière, vraiment pour moi à tout niveau, même si j'étais enfermé. Mais moi, mon horizon, c'était donc les informations à la radio. Hein.
Mais vous n'avez pas manqué de farine?
Ah non. Et j'ai pas senti les gens venir chercher plus de pain, même si on a bien travaillé dès le début, même fortement. Hein, c'était. Mais je voulais pas embaucher, moi, au début. Il y avait la demande, mais je voulais m'apprendre avant d'apprendre. Appréhender le lieu, faire le caméléon, bien me sentir avant de transmettre. Quoi.
Une journée particulière, Zoé Varier.
Alors en 1991, Alex Croquet, vous étiez encore un jeune boulanger,
ouais.
Un jeune pâtissier, comme vous venez de le dire. Vous avez besoin de vous apprendre avant de transmettre. Vous étiez un peu comme les autres, vous faisiez votre pain à la levure chimique, sans passion, ça ne vous intéressait pas des masses. Et puis, vous êtes tombé amoureux du levain, c'est ça?
Oui, au départ, je faisais du pain comme une valse, on disait la valse du boulanger à 4 temps. Et puis, sans passion... J'étais surtout pâtissier. Hein.
Ouais.
Et puis mon boulanger s'installe. J'avais formé mon pâtissier à la maîtrise et je pars en boulangerie. Et là, je sais pas, à toucher la pâte, c'est sensuel la boulangerie. Hein. À toucher la pâte, à être au contact, dans mes pétrins, tout seul. Et là, c'est parti. J'étais attrapé par.
Par quoi alors?
Par le levain.
Mais alors quoi? Mais alors, d'abord, c'est quoi le levain?
Alors le levain, c'est assez extraordinaire. Les gens, ils disent, de la farine et de l'eau, ça fait du pain et de la levure. Mais de la farine et de l'eau et du temps. Sans rien d'autre, je précise bien, de la
farine,
de l'eau et du temps. Et ça prend vie. Au bout de 13 heures, vous commencez à avoir des petites bulles qui apparaissent comme sur une petite soupe qu'on fait chauffer au sourire. Là, il y a des petites bulles qui apparaissent. Et ben, là, c'est pareil, au bout de 13 heures, il y a une petite bulle, puis 15 heures, 20 heures, 24 heures. Puis là, ça devient effervescent, comme une bonne bière qu'on aurait tirée bien mousseuse. Vous dites, c'est parti, il se passe quelque chose. Il y a une réaction, il y a des mousses, il y a des couleurs qui apparaissent.
Alors, les petites bulles, les mousses, ça peut être de quelle couleur? Parce qu'à chaque fois, ça change,
ah,
j'imagine.
Oui. Au début, c'est assez homogène, quelquefois, parce que c'est la farine qu'on a choisie pour faire le levain qui s'exprime, parce qu'elle a sa couleur. Chaque farine a une couleur. Ça s'appelle les caroténoïdes. Ce sont des petits tubes de gouache qui sont fermés tant qu'ils ne rencontrent pas l'eau. Et quand ils rencontrent l'eau, ils se diluent dans la pâte et ils expriment leur couleur. Parce que quand vous regardez une farine, elle est blanche,
ouais.
Même pas une farine très blanche, vous mettez de l'eau. D'un coup, vous voyez, c'est blanc cassé, c'est blanc crème. Qu'est-ce qui s'est passé? L'eau, elle est neutre. Elle a une couleur, mais elle détend les caroténides, elles diffusent la couleur. Et ça, faut la garder.
Donc c'est une palette.
Ouais. Et plus le levain évolue, surtout si on travaille le levain à la main, plus, quand il arrive tout point, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel de vie par rapport à la masse, là, il commence à avoir des diversités de mousse. Il y a même des mousses neigeuses. Moi, j'ai remarqué souvent dans mes levains, quand j'ai des sommets un peu neigeux, comme une montagne, puis en dessous, un dégradé de ocre, de gris, de blanc, de marron, j'y tiens. Complexité d'expression, complexité de vie. Épanouissement.
Ah, mais vous parlez comme un peintre.
Ouf, c'est le pain qui m'explique tout ça. Moi, c'est le pain qui m'apprend. Je le regarde.
Mais ça veut dire qu'à chaque fois, vous ne savez pas ce qui va se passer quand vous faites votre levain. Vous ne savez pas ce qui va naître.
Ah non, parce que le levain, on disait une fermentation sauvage, spontanée. Si vous êtes dans la fermentation sauvage, un animal sauvage, il n'y a pas de frontière. Sa frontière, c'est lui qui la crée.
C'est sauvage.
Bah ouais, c'est pas un animal domestique. Donc, c'est lui qui va choisir son environnement, son développement et son orientation de nourriture, donc son orientation aromatique. C'est pour ça que moi, mes levains, je ne voulais jamais leur imposer quoi que ce soit.
Ça veut dire quoi?
Ah bah par exemple.
Comment ça, j'impose rien à mes levains? Ça fait une drôle de phrase quand même.
Je vais choquer du monde, mais. Ouais. On entend des levains de pommes, des levains de raisins. On met un jus de raisin, un jus de pomme, un jus de fruit, un fructose, on va dire. Et je vais pas être trop technique, mais c'est un sucre dégradé.
Oui.
C'est un sucre qui est prêt à l'emploi, prêt à consommer.
Oui.
On a rempli le petit frigo du levain. Il est ouvert, manger, c'est ouvert. Donc, on oriente la vie. On dit, tiens, là, c'est facile, je te donne à manger. Par contre, si on donne rien au levain, au jus, donne rien.
Juste de l'eau.
Et de la farine.
Oui.
Dans la farine, il y a la nourriture. Mais il faut qu'elle la transforme, parce qu'elle est à l'état complexe. C'est l'amidon. Et avec ces petits ciseaux, les petites bactéries et les petites cellules indigènes qui sont dans... Elles se réveillent avec l'eau. Elles coupent la complexité de l'amidon pour le rendre simple jusqu'à être capable de le manger. Mais ça, c'est un chemin. C'est naturel. C'est l'animal sauvage, il doit trouver sa vie.
Alors attendez, si je comprends bien Alex Croquet, sa vie, le levain, oui. C'est comme un animal sauvage et puis ça grossit.
Ah oui, parce que vu qu'il s'exprime, par la respiration, mais le levain, il va donner sa respiration au pain quand il sera tout prêt. Quand il sera bien, qu'il sera bien inspiré, qu'il sera tout gros, comme des gros poumons. Parce que le levain, c'est le poumon du boulanger.
Et là, ce que vous avez sous votre torchon rose, c'est du levain?
Ouais. Alors, j'ai plusieurs sortes de levain. Là, j'ai ramené une petite boule de levain dur.
Faites voir.
Alors, je l'ai mis dans un film.
Mais je pensais que c'était liquide, le levain.
Ah, il y a toutes les formes de levain. Le levain italien, il vit dans l'eau comme un poisson.
Ouais.
C'est génial. Je fais ça aussi.
On le
fait.
Et il grossit?
Ah oui. Et puis, mais il flotte après. Vu qu'il est gros, il est plein d'air et de gaz. Après, il flotte comme une boule. Ah non, mais c'est génial. Et après, on l'épluche comme une pomme. Et on prend son cœur. Mais le levain, on peut faire un livre sur le levain sans même parler du pain. C'est passionnant. Toute forme de levain, dur, solide, liquide, semi-pâteux, influence son orientation aromatique.
Ouvrez-moi ce que vous avez.
Alors, vous voyez, là, c'est un petit ballon, je l'ai mis dans un plastique. Et ben donc, si on le laisse, les enfants pourraient faire un match de foot avec.
Attendez, parce que là, vous avez dans un papier.
Alimentaire. J'en ai mis, hein, parce que ça explose, il y a des fois. J'ai déjà eu des levains qui explosaient dans mes voyages.
C'est-à-dire?
Dans la soute de l'avion. J'ai tout le levain dans la valise qui avait explosé.
Pourquoi ça grossit, ça se déplace? Ben,
ça n'arrête pas de gonfler.
Donc ça vous est déjà arrivé que votre levain il sorte de votre valise?
Alors une fois dans le train, il y a quelqu'un qui est venu me voir parce que le levain est sorti de mon sac. Il dit il y a un truc qui gonfle dans votre sac. et alors je fais et vu que j'allais à Monaco en train faire du pain, j'étais parti avec mon levain. Et une fois dans la soute, il a explosé. Et à la douane, c'était en Italie. Ils pensaient vu que j'avais de la farine, que j'étais un trafiquant de drogue. Et j'ai dû expliquer que j'allais faire une prestation.
C'est-à-dire, Alex Croquet, vous vous déplacez jamais sans votre levain. Dis donc, vous y êtes allé, hein, sur le papier. Je vous aide?
Non, mais c'est parce que ça explose. Ah, je suis obligé. J'aurais pas voulu souiller tout mon. Voilà.
Alors, ça, c'est quoi?
Alors, si on l'ouvre. Voilà, c'est particulier, hein.
C'est une pâte.
Ah oui, c'est de l'eau de la farine.
C'est de l'eau et de la farine, c'est tout collant.
Ah oui, ça colle.
C'est tout
ça collant. Mange son environnement. Il se nourrit de sucre.
Ça sent pas bon. Hein.
Si, ça sent bon. Ça sent le lait fermenté, c'est lactique.
C'est fort. Hein.
Ah oui, c'est fort. Ah oui, c'est puissant, c'est acide. Hein. On est sur un pH à 4,3, 3,7.
Oui, ça sent le lait.
Ouais.
C'est comme du chewing-gum.
Ah ouais, c'est élastique, c'est mou, c'est maniable.
Et ça, on peut jouer au foot avec?
Bah oui, parce qu'une fois qu'il est bien gonflé...
Ça rebondit?
Ah oui, ça...
Si je le lâche, ça rebondit?
Là, non, parce que dans le plastique, oui. Si on l'avait laissé dans le plastique, on aurait pu faire un petit match.
Et mais là, non.
Ah là, non.
Oui, ça sent fort, hein.
Ah oui, ça sent fort. Hein.
Bon, Alex Croquet, est-ce que c'est vrai que vous faites écouter de la musique à vos levains?
Alors, ça c'est oui. J'ai fait écouter le concerto pour cor classique de Mozart.
C'est ça que vous faites écouter? Ouais,
parce que je trouve que c'est bondissant et ça me fait penser à l'eau d'une rivière. Et je trouve que ça correspond bien à ce que je recherche dans le vin, de l'énergie, du bon sens. Ah bah voilà. Ah.
Croquet, est-ce que vos levains aiment Mozart?
J'espère, parce qu'ils me le rendent bien. Je vais pas dire j'en suis sûr, parce que on est sûr de rien dans le monde du vivant, comme je vous disais tout à l'heure. Et oui, ils aiment ça.
Ils aiment ça. Mais ça, vous arrivez à évaluer ce que ça fait sur vos levains? Alors, vous leur parlez aussi aux levains?
Je les regarde beaucoup. Leur parler, je les goûte, je les écoute parce que ça fait un peu de bruit. Quand on met son oreille sur un levain liquide, ça fait tout des petits bruits.
Ça si fait
on
comment
un, des petits clapotis, des petits. Ça réagit. Ça, on met son oreille sur un, ça fait. De toute façon, les bulles, elles éclatent, donc elles émettent un son.
Ouais.
Et vu que les mousses, elles montent tout le temps à la surface, c'est ça qui fait tous ces côtés hétérogènes de la surface d'un levain. Oui, ça fait du bruit. Faut mettre son oreille dessus, faut être dans le silence. Mais moi, j'ai un atelier, j'écoute beaucoup de musique. Mais la dernière fois, on a eu un reportage télévisé, ils étaient venus à deux, ils disaient c'est très silencieux comme atelier. On fait pas. Il y a la musique, mais bon, là, je l'avais enlevé, mais on fait pas de bruit. On frappe pas les pattes. On façonne en tenant l'élasticité de la pâte, on la fixe pas. J'ai des pétrins à bras plongeants, des Artofex, ça fait pas de bruit. C'est assez silencieux, je veux dire, il n'y a pas de violence.
Il n'y a pas de violence, donc vous pouvez entendre le levain parler.
Ouais.
Parce qu'il parle.
Il faut s'approcher, attention, c'est des vies minuscules qui s'expriment, elles n'ont pas une grande voix.
Mais moi ça me plaît, l'idée qu'on puisse écouter le levain.
Ah oui, mais il faut mettre son oreille, on entend les petites mousses, tout ça, surtout sur les levains liquides et semi-pâteux. Sur ces levains durs, comme j'ai ramené ici, on n'entendra pas. Si je le noue, il va éclater, il y a un moment.
Vous savez, si on le noue. Vous faites un nœud?
Ah oui, on le noue
celui
dans un
qu'on linge. Qu'on a là, sur
ah
la
oui,
tête.
Si je le tiens, ouais. On le met bien. Puis d'un coup, le réveil, il fait plac, il y a tous les bouts de pâte qui vont exploser dans le studio. Ah si.
Ça me plaît beaucoup.
Mais de toute façon, le levain, la difficulté, c'est que les gens, la grande question, c'est quoi un levain? C'est quoi un levain par rapport à la levure? Et c'est toujours très dur. Et je dis, c'est une complexité de vie qui s'exprime dans un milieu qui est l'eau et la farine. Dû à un facteur qui est le temps. Et après, quand il y a assez de potentiel de vie par rapport à la masse, ça devient un monde. Et ce monde, quand il y a assez de vie dans ce monde, qu'il y a même trop, c'est là qu'il va les rencontrer le pain pour redevenir un nouveau monde.
Alors si vous, Alex Croquet, vous faites écouter du Mozart à vos levains, d'autres font gonfler leur pain dans leur lit.
Dans la Nièvre, j'ai connu un charmant monsieur. Il faisait son pain jusqu'en 55. Il le préparait la veille, il pétrissait dans une mets. Il mettait à pousser dans un paneton sous son édredon.
Oui, vous dites à pousser?
À pousser, oui, à lever.
On fait pousser le pain, c'est levé.
Il levait avec un... Il gardait d'une pouliche, c'est-à-dire un morceau de pâte de la semaine d'avant. Il gardait dans un pot en grès dans la cave. Il remélangeait avec de la farine, de l'eau, du sel. Il pétrissait bien à la main. Il mettait dans un paneton, c'est un panier en osier toilé, avec un peu de farine. Et il mettait sous son oreiller, sous son traversin. Pas le traversin, non, sous l'édredon, entre lui et sa femme. Et pendant la nuit, le pain levait. Et le matin, évidemment, il avait chauffé son four avec le bois la veille. Le matin, il réchauffait au bois. Il mettait son pain, il laissait une heure et demie au four. C'était des gros pains de 4 livres. Il en faisait 3-4, il en faisait pour les voisins. Et sa femme faisait des petits gâteaux à la peau de lait. Je vous assure, ils étaient succulents. Nous, on était gosses quand on allait la voir. Je vous assure, c'était un régal de manger ces petits gâteaux et même son pain. Et bien après, quand son four a été cassé, beaucoup de gens faisaient encore du pain, mais dans des cocottes dans leur cuisinière.
Alex Croquet, j'avais pris un petit bout de pain pour le goûter, mais j'ai pas eu le temps. Je vous vois hocher de la tête.
Non, parce que tout le monsieur, ce qu'il vient de raconter, c'est vrai, c'est que le levain aime le confort, aime la chaleur d'une chambre. D'ailleurs, les anciens boulangers, quand ils rentraient dans un fournil, si le fournil était douillé comme une couveuse pour un bébé, ils disaient, ce gars-là, il va faire du bon pain, il y aura du parfum. Un atelier plein de courants d'air, avec des fenêtres ouvertes, des portes près du pétrin, le pain il s'enrhume, il éternue, et il est moins bon, parce qu'il n'est pas épanoui. Le pain aime la chaleur et l'humidité.
Donc c'est pour ça qu'il aime les édredons.
Le confort, douillet, de toute façon on le met dans quoi le pain, dans des couches.
Ouais.
Un banneton, c'est quoi un banneton? Quand ici, c'est un fauteuil où le pain se prélasse. Quand vous mettez votre pain en banneton, vous faites un pain rond, vous le mettez en banneton, vous n'êtes pas obligé de forcer la matière. Vous le façonnez à peine, vous mettez dans le banneton, c'est comme moi aussi. Là, je suis sur un siège confortable, je peux me détendre. Si vous me donnez un truc design, les trois comme ça, je vais devoir tout en muscle, stoïque, tenir sur mes jambes.
D'accord, donc si je comprends bien, il faut laisser la vie s'exprimer, c'est ça?
Ah, moi,
dans
je suis sur le moins de contraintes possible, ampleur. Le plus d'épanouissement. Et je pense que plus le pain vit une belle histoire, plus il va vous la raconter quand une fois qu'il est cuit.
Et ça s'arrête là. Tous les j'aime ne sait faire que ça.
Du pain et du beurre, à moi je n'aime que ça. Du pain et du beurre, et ça s'arrête là.
Oh oh oh, au début pour lui plaire, j'en mangeais de bon cœur. En lui disant c'est délicieux, quand j'en avais horreur.
Du pain. Je n'aime que ça. Ah, du pain et du beurre. Ah, et ça s'arrête là.
Alors elle m'a tendu un piège en mettant un beau jour sur une table du pain et du beurre, de l'eau fraîche et de l'amour.
Oh, au pain et au beurre, ah, je suis condamné. Ah, au pain.
Alex Croquet, Clo-Clo.
Bah ouais, je connaissais pas, j'ai reconnu la voix, mais je connaissais pas la chanson.
Vous écoutez beaucoup de musique dans votre atelier?
Oh, c'est énorme, c'est tout le temps. Même c'est méga dans l'atelier, si on pourrait travailler des moments sans bruit, sans musique. Je peux pas, c'est presque tout le temps.
C'est presque tout le temps.
Bah, la radio, beaucoup la radio ou la musique. Mais, et c'est très éclectique. Hein. Je peux démarrer avec Purcell, enchaîner sur Philippe Catherine, après Brigitte Fontaine, revenir au Dark Wave avec Sister of Mercy, B-52, je repars dans un autre style rock progressif, Magma, Ange. Je redescends, après je peux écouter Sexy Sushi, qui est un groupe contemporain un peu décalé, ou Kenji Menog, qui sont de Flamande, qui font de l'électro-trash.
C'est ça, vos caisses de beurre sont remplies de CD?
Ouais, j'ai des caisses de beurre à thème, rock progressif, rock alternatif, rock musique classique, baroque, les chants, les opéras, c'est le jazz aussi, j'ai des caisses complètes de jazz.
Et en 1991, vous écoutiez ça? Votre jeunesse, Alex Roquet.
Ah ouais, c'est quand j'étais dans les boîtes d'Estroy en Belgique, où on écoutait de la musique qui passait pas à la radio. C'était la folie, c'était Front de 4-2, Soussing the Bedsheets, Cabaret Voltaire, Neon Judgment, l'influence Kraftwerk allemande. C'était le début de l'électronique, puis de la musique un peu percussive comme ça. On disait oh, c'est trop d'Estroy quand on allait en boîte. Et ah ouais, puis Kiem, Moneyman, c'était un groupe complètement décalé. Il coupe ses cheveux pendant qu'il tape sur des batteries où il y a des morceaux de phare à cheval. Et moi, j'entends ça, j'ai envie de danser. Genre. Et puis, on dansait.
Mais vous dansez dans l'atelier?
Ouais, je bouge. Ouais. Ouais, si. Il y a une bonne ambiance. Hein. C'est assez festif. Hein.
Mais enfin, c'est pas la boîte de nuit underground.
Ah, ça, on voit aussi. Ça. J'ai quatre enceintes. Ah ouais, genre, j'ai un ampli reggae. Ah ouais. Ah ouais, non, mais ça, on voit.
Ah, j'imagine.
Et c'est ma nourriture. C'est mon pain vit en musique, de toute façon, c'est évident.
Alors, si vous allumez votre poste à l'instant même que vous venez de finir votre déjeuner du dimanche, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur France Inter jusqu'à 15h et c'est la journée particulière d'Alex Croquet, boulanger, amoureux du levain, fou de pain. C'est ça?
Ouais.
C'est ça.
C'est ça.
Je prends l'eau dans une bassine, je la délègue avec la levure. Et je la remets dans le pétrin. Alors je l'abats. Je bats l'eau. Je délègue bien avec le levain. Puis j'ai fait la veille. Et puis après, à mesure, je prends la farine à mesure que je piétine le pain.
Où est-ce que vous avez appris à faire ça?
Oh, c'est mes vieux parents.
Alors, Alex Croquet, c'est une archive de 1973. Et pour faire du bon pain, donc, il faut du bon levain, vous nous l'avez dit, de la farine et de l'eau. Et en fait, c'est votre amour pour le levain qui vous a conduit à réfléchir à l'eau, à quelle eau employer pour faire votre pain. C'est comme ça que ça s'est passé, Alex Croquet, non?
Exactement, parce que le levain m'impressionnait tellement, je voulais tellement le servir pour qu'il soit le plus heureux possible. J'étais dans une époque de pureté aussi. Je me disais, si je suis pur, je suis bon.
D'accord.
Et donc, l'eau pure.
Alors, c'est quoi l'eau pure?
Eh ben voilà. Alors, vous appelez des techniciens, de l'osmose, qui vous font un osmoseur, ça sert à faire de l'eau purifiée à la taille de la molécule. Donc, c'est ce qui est le plus facile à faire dans un milieu, comme dans une boulangerie ou dans plein de domaines. Mais le problème, c'est qu'on me disait, c'est une eau morte. Ah, c'est une eau morte.
Alors, parce que c'est quoi une eau vivante?
Eh ben voilà. Alors, c'est marrant, on vous parle toujours de l'eau morte, mais on vous dit pas ce que c'est une eau vivante. Donc, à partir de ce terme, c'est une eau morte, je comprenais pas de mettre de la mort dans la vie. Ma passion du vivant, du levain et du pain, et moi je mettais de la mort dans la vie. Donc j'ai essayé de comprendre ce que c'était une eau vivante, et j'ai lu tout ce qui traînait à l'époque, et je suis encore abonné à tout ce qui traînait sur la physique de l'eau, la chimie de l'eau, la biologie de l'eau. Et en fin de compte, on peut pas raisonner dans aucun domaine, parce que l'eau, c'est omniscience. Et la dynamique de l'eau, par exemple une rivière, c'est ce que j'ai fait dans mon atelier.
Alors attendez, vous avez fait une rivière dans votre atelier, ça veut dire quoi?
Eh ben, j'ai pris l'eau osmosée purifiée, que j'ai fait circuler dans des vasques vives, qui restituent le mouvement d'une rivière. C'est-à-dire que l'eau, quand elle se déplace dans un espace, chaque fois qu'elle rencontre un obstacle, elle évite pas, comme nous on éviterait un passant, en se dérivant vers la droite ou la gauche, elle fait un mouvement sur elle-même, qui s'appelle les forces centripètes, elle s'enroule, et elle redémarre. Et ces enroulements permanents, de gauche à droite, pendant plusieurs kilomètres, donnent une structure, une vivacité, un échange entre les molécules d'eau, et qui augmente sa vibration.
Alors ça veut dire, Alex Croquet, que vous avez une rivière...
En céramique, oui.
En céramique qui traverse votre atelier, l'atelier de votre boulangerie
tout
à Lille.
Tout un mur, oui.
Tout un mur.
Pas tout l'atelier, parce que l'atelier fait quand même 100 mètres carrés.
Parce que en fait, l'eau, elle est vivante si elle est en mouvement.
Oui, parce que l'eau, plus elle est vibrante, plus toute information qu'elle reçoit, elle le transmet aux autres molécules, elle se donne la main. Donc ça stimule aussi les intrants qu'il y a dans l'eau. C'est pour ça que la résurgence de l'eau qui arrivait dans les villages, on disait, oh, cette fontaine c'est pour les yeux, cette fontaine c'est pour le dos, cette fontaine, c'était la résurgence naturelle de l'eau après l'initiation cosmique, tellurique, et elle ressortait terre pour rencontrer l'homme. Mais elle avait son information, qu'il soit ferrugineuse, ou l'égolément, ou calcaire, tout ce qu'on veut, mais elle sous forme dynamique. Donc elle apportait l'information souterraine dans son milieu liquide, sous forme dynamique.
Mais ça veut dire, Alex Croquet, que vous avez travaillé à la symbolique de l'eau, vous avez étudié la physique de l'eau, vous avez fait tout ça.
J'ai des caisses entières de livres, de 10 sur l'eau, de physiciens, de chimistes et de biologistes. Et de poètes aussi. Bachelard qui a parlé de l'eau, j'ai acheté. Parce que les poètes, ils ont une vue imagée, mais en fin de compte, ils ont vu avant les scientifiques, sans la démonstration, ils ont perçu des choses.
Chant de la splendeur de l'eau. Jésus lui répondit : quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif.
Alex Croquet. Alors, c'est très joli, là, ce qu'on vient d'entendre. Oui. Vous avez eu une enfance catholique.
Oui.
Vous avez grandi dans la religion.
Oui. Il y avait un crucifix dans chaque pièce. Il y avait des saints tout petits que ma mère récupérait dans les églises, des statues. Qui étaient aussi grands. Ouais,
d'ailleurs, pourquoi vous aviez des statues, des
églises? Parce que ma mère, elle faisait des échanges avec le curé du village. Elle disait, je donne un rosbif. Alors, il y avait une statue un peu abîmée, lui donner. Donc, on avait des statues plein la maison. Une fois, mon père a posé la main sur la tête d'une statue et a dit à ma mère, bah, Alex n'est pas parti à l'école. Il m'avait confondu.
Avec la statue?
C'est une anecdote, je vous jure, c'est incroyable.
Mais pourquoi votre mère a donné des roast beef? Mais vous étiez boucher?
Mon parents étaient boucher. Boucher charcutier, ouais.
Et vous ne vouliez pas devenir boucher?
Oh non, la viande morte, comme ça. Là, ça
ah oui, c'est pas du... Ah oui,
sang,
oui,
mais
bien sûr.
Oh, oui.
Ah, bien sûr, je n'avais pas pensé. Truc du tout. Et c'est vrai que vous êtes amusé à faire des pains avec de l'eau des saints?
Oui, Sainte-Pétronie, l'eau de Sainte-Hélène. Oui, j'ai fait tout ça. Avant d'avoir mon osmoseur, parce que je voulais voir l'influence de l'eau par rapport à une période dans le calendrier. Sur mon pain.
Ça veut dire que un jour lambda, où c'était la Saint, je ne sais
Sainte
quoi.
Pétronie,
Sainte Pétronie.
Ma mère récupérait l'eau, elle me l'a donnée, je faisais du pain avec.
L'eau de la pluie?
Oui.
Et vous faisiez des pains de Sainte Pétronie?
Voilà. Mais ça, c'était pour moi. Ça, c'est des expériences. Là, ce que je raconte, j'ai jamais dit à personne. Mais.
Et ça avait un goût de quoi? De pétronille?
Oui, alors, la difficulté dans cette démarche, et je le sais maintenant, c'est que le pain n'est pas fait que d'eau. Et donc, il y a fait de la journée, comment elle s'est passée, de moi, la forme que j'avais, la forme de mon levain, la qualité de la farine, la mouture, quand est-ce qu'elle a été faite. Donc, faire une démonstration objective qu'il y a une influence de telle partie ou telle autre, c'est ça toute la complexité du pain. C'est ça qui me fascine. Hein, parce que chaque fois que j'ouvre une porte dans le pain, il y en a 10 autres derrière. Ouais, et je passe mon temps à ouvrir des portes, et puis il y en a encore 10. Et j'ai 54 ans, et je me calme pas.
Et ça fait combien de temps que vous ouvrez des portes?
Alors, honnêtement, je me suis installé en 91. Au bout de 4-5 ans, quand j'ai pris la main du pain, ben c'est lui qui a pris ma main. Et ben depuis ce temps-là, c'est la folie.
Quoi. Oui, depuis 91, quoi.
Ouais.
Depuis 91.
J'arrête pas de. Non. Mais des tas d'expériences. Il y a un moment, je m'amusais aussi sur les fenêtres du temps, sur les fenêtres aromatiques. C'est-à-dire d'arrêter une fermentation constante dans l'atelier en masse, ouais. Un gros morceau de pain. Et je laissais fermenter, puis je disais, tiens, 4h du matin, j'arrête tout. En ambiance naturelle dans l'atelier. Je prenais, je mettais au four. D'un seul coup, je le faisais à minuit. D'un seul coup, je le faisais à 6h du matin ou à 10h. Et chaque fenêtre de temps est une fenêtre aromatique. C'est-à-dire que quand je faisais goûter ces pains-là à des copains, parce que ça, c'est pour les clipins.
Ouais.
C'est-à-dire, les clipins, c'est des clients copains. Je dis, vais au magasin vite fait, je dis, Valérie, donne ça, mon épouse. Et comme ça, et j'attends un retour. Et parce qu'ils vont me le dire, vu que c'est des copains. Et il me dit, tiens, t'as mis du miel, il n'y avait pas de miel. Tiens, t'as mis du seigle, il n'y avait pas de seigle. Donc ça prouve bien qu'un moment fermentaire est une expression. Ça, c'était passionnant. Après, le répéter, je ne l'ai pas vendu, ça.
Non.
Ça, c'est mes nourritures à moi, c'est mon petit truc à moi.
Mais enfin, vous avez aussi réfléchi au caractère, à l'histoire du pain dans les religions. Vous avez réfléchi à tout ça, j'imagine que ça aussi, vous l'avez lu.
Oui, bien sûr, rompre le pain, déjà, c'est un mot, c'est pas fait qu'un couteau. Rompre le pain, on a la structure complète du pain. Couper un pain avec un couteau, on choisit un moment, un espace. On n'a pas l'élasticité. On retrouve pas les forces du pain avec un couteau, moins facilement. Déjà, c'est un
geste. Ça se touche, quoi. Ouais. Là, j'ai du pain, là, dans les mains. Je l'ai goûté, hein. On s'entend manger votre pain.
Ah oui, le pain, quand on mange du pain, on s'entend manger, ça craque sous la dent.
Ah oui, ça craque. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas craqué comme ça dans ma bouche.
Et ouais, puis moi, c'est parce que c'est mon pain, je m'en fous. Mais quand je suis tout seul à la maison, en plus, j'ai pas de télévision, donc je regarde dans le vide, et je mange et il faut du pain. Il n'est pas toujours bien, mon pain. Je me régale pas tous les jours. Hein. Je suis heureux, malheureux. Je suis un vrai petit baromètre. Et ben, d'un coup, je souris. Il n'y a rien devant moi. Je dis, tiens, je souris à mon ventre, parce que c'est bon. Mais si, parce qu'il n'y a personne devant.
Oh, c'est trop mignon. Bon, vous parliez de Bachelard. Ouais. Alors évidemment, on va vous le faire écouter.
Pour un homme de notre temps, une goutte d'eau souillée suffit à souiller une grande quantité d'eau. L'alchimiste pense exactement le contraire. Une goutte d'eau pure, pour lui, une goutte d'eau pure primitive, a la puissance de purifier une masse d'eau indéfinie. L'alchimiste ira sans trêve à la recherche de cette eau céleste, de cette eau absolue. Elle purifie tout ce qu'elle touche. Elle rénove, elle rajeunit. L'alchimiste, le vieil alchimiste, rêve sans fin à la fontaine de jouvence.
Ça vous plaît, Alex
Croquet? Ah ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. Puis ça, moi, je sais que, enfin, dans l'atelier, je sais, j'ai appris que l'eau donne la main, c'est ce qui donne la main à toutes les rencontres. Que ce soit le sel, le sucre, ou la vie qui est le levain. Parce qu'il n'y a pas d'agression.
Alors, c'est drôle ce que vous dites, parce que justement, dans cet archive de Bachelard, qui datait de 1954, il disait après, on a coupé, mais il disait après que l'eau est une substance d'espoir, une matière d'espérance.
Oui, mais tout à fait. Et puis après, on peut l'expliquer techniquement, si je rentre dans la...
Oui.
Quand on dit que le sel brûle la levure, c'est un terme qu'on peut trouver dans tous les livres, c'est pas qu'il la brûle. Le sel est hydrogyre. Donc il va aller prendre l'eau des petites cellules de levure. Elle va les déshydrater. Donc chaque cellule, elle va mourir jusqu'à temps que le sel y a trouvé son nombre de molécules d'eau par rapport au nombre de molécules de sel. Donc il va agresser. Par contre, si vous lui mettez l'eau avec le sel, il va aller chercher son eau dans l'eau et non dans la levure. Il va pas agresser le vivant. C'est pour ça que c'est l'eau qui donne la main.
Et c'est pour ça qu'on dit de vous, que certains disent de vous, Alex Croquet, que vous êtes un alchimiste.
Oui, c'est...
Et pourquoi, à votre avis? Expliquez-moi pourquoi. Parce que vous cherchez, vous jouez avec le vivant, vous...
Parce que je passe ma vie à remonter les choses. Comme un enfant qui a une petite voiture pour son Noël, puis il fait rouler, puis il s'ennuie, au bout d'un moment, il enlève une roue pour voir ce que ça fait. Puis après, il en enlève deux.
Mais vous cherchez de l'or aussi?
Je cherche... La partie, vous voyez, parler de religion, la partie culturelle. Par exemple, le vin vit dans l'eau. Alors, je fais vivre le même levain dans l'eau et pas dans l'eau. Pour voir si l'eau a une vraie influence ou si c'est culturel. Parce que le levain qui vit dans l'eau, c'est italien. La mozzarella, elle vit dans l'eau. Alors je me dis, est-ce que c'est pas l'influence de l'esprit italien qui a fait mettre le levain dans l'eau, ou il y a une vraie histoire scientifique de protéger de l'oxygène pour éviter l'oxydatif qui va développer de l'acidité? Et je passe mon temps à faire tomber des frontières qu'on m'avait données. Comme faire du pain à l'eau pure, prenez les livres à l'époque, disaient non, une eau pure c'est trop difficile à faire du pain, il faut de la minéralité pour les cellules. Mais la minéralité, elle la trouve dans la farine, elle la trouve dans le sel quand il n'est pas purifié. Et j'aime bien comprendre par rapport à tout ce qu'on... Mais je le veux, moi je le vis, je ne suis pas scientifique. C'est le pain qui me dit ça marche ou pas, quoi.
Some folks felt like this before, illusions that they tried to understand the questions that the man I'd hoped could find. What is this answer? Lonely days go by. Foremost of these dangers lie across another's hand. Please understand the changes that a boy has had to climb.
Particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Alex Croquet, alors l'année 1991, on en a parlé, débute avec la guerre du Golfe, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et 27 autres pays ouvrent les hostilités contre l'occupant irakien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en mai, Michel Rocard démissionne et le lendemain, c'est Edith Cresson qui arrive au pouvoir et qui devient la première femme Premier ministre en France. En juin, c'est l'état de siège qui est décrété en Algérie après des manifestations islamistes. C'est le début de la décennie noire. En juin, toujours, Boris Yeltsin est élu président de la Fédération de Russie. Berlin redevient la capitale de l'Allemagne. La Slovénie et la Croatie annoncent leur dissociation de la Yougoslavie et proclament leur indépendance. C'est le début de la guerre des Balkans. C'est l'explosion du bloc de l'Est. Au mois de juillet, le pacte de Varsovie est dissous. Deux mois plus tard, Gorbatchev démissionne de son poste de secrétaire général du Parti communiste de l'URSS, et il appelle le parti à se dissoudre. L'Union soviétique se disloque. C'est une sacrée année, hein, l'année 1991. Ouais, le monde se redessine. Et en septembre, Klaus Barbie meurt en prison, alors qu'il était condamné à perpétuité pour crime contre l'humanité. Et est-ce que, ça peut-être Alex Croquet, vous avez tendu l'oreille, en septembre 1991, deux alpinistes découvrent, pris dans un glacier des Alpes autrichiennes, le corps conservé d'un homme vieux d'environ 3350 ans avant Jésus-Christ. Il mesurait 1m50 et il était allongé dans la glace avec son arc et ses flèches. Ça vous dit quelque chose, ça?
Là, aujourd'hui, non, je ne me rappelle plus vraiment, honnêtement.
Non, vous étiez ailleurs, mais je peux comprendre. Mais en 1991, on avait tous en tête cette chanson-là.
Moskwa, down to Gonky Park, listening to the wind of change.
Alex Croquet, souvenir, souvenir.
Ouais.
Vous avez dansé là-dessus.
Bah ouais, je connais. Mais là, je suis parti dans mon plein, donc je faut que je redescende.
Pourquoi vous êtes où là?
Je connais par cœur. J'arrive pas à mettre un nom dessus.
C'est Scorpion.
Ah ouais, Scorpion. Ouais, ouais. En plus, c'est toute ma jeunesse, Scorpion.
Bah ouais.
Ma période de Truss, Van Halen, Scorpion. Bah ouais.
Mais là, c'est du slow. Là, on n'est plus dans le underground belge.
Ouais, mais Scorpion, c'était considéré comme un super slow, ce morceau de.
Ah ouais, là, on emballe sec, quoi, direct.
Ouais, c'était mes 16 ans. J'avais même mon sac à dos, c'était Kiss qui était dessiné dessus avec leur visage peint. Qui n'était pas le meilleur groupe, d'ailleurs.
Non.
Mais si, c'est mes 16, 17, 18 ans, ça. Ouais. Ouais.
Alors, en 1991, Alex Croquet, on découvrait au cinéma le Van Gogh de Piala,
ouais.
Interprété par Jacques Dutronc.
C'est injuste de travailler comme un homme de peine, sans argent à soi gagné par son travail. Et des jours, ça me dégoûte de pain. Non, c'est trop. Ah, merde. Non, merde, je rime.
Ça vous ressemble, cet extrait, je me dis. Des fois, vous vous énervez, non, dans votre atelier, quand ça marche pas. Ou non, vous ne vous énervez jamais, non?
Je suis déçu, malheureux, ouais. Mais m'énerver, ah, je vais pas claquer les choses, tout ça, non.
Non,
je prends tout dedans, moi. Mon épouse, ça l'ennuie, parce que ça sort pas, et des fois. Mais moi, c'est la musique qui va me faire échapper, je vais bouger, c'est physique, hein, c'est très physique, hein, je suis pas assis, hein, je suis debout, hein. Et des heures, en plus. Mais puis là, ce film, c'est les films qui m'ont marqué de l'époque, ouais.
Pourquoi?
Parce que c'est des films sur le regard, sur Van Gogh. Il y a un moment, on voit une charrette passer pendant 5-6 minutes dans ce film, comme ça, au loin, avec des chevaux. Et on voit qu'il regarde, ou quand il prend, j'ai des images qui me reviennent, il prend le petit enfant dans le champ, puis il met ses cheveux de façon hirsute avec sa main, puis il a envie de le peindre. Parce que ça, c'est de l'intuition. Et moi, dans l'atelier, j'ai plein d'intuitions, ça arrive pas tous les 5 minutes, malheureusement, mais, et quand j'ai vu Jacques Dutronc, comme ça, pas Van Gogh dans le film, mais il tire les cheveux et je dis, tiens, il y a une intuition, il va faire ça, et ça va être beau parce qu'il sent. Et ben moi, dans l'atelier, j'ai plein d'intuitions comme ça, mais du coup, je vais les exécuter parce que l'intuition, c'est l'intelligence en excès de vitesse. On a envie de faire un truc. Mais on n'a pas la démonstration. Et on va la faire.
Ah, pourquoi on excès de vitesse?
Parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on dit, tiens, si je faisais ça. Et puis, qu'on n'a jamais fait. On prend une direction complètement bizarre. Les scientifiques diraient une variable. Et puis, je dis, allez, je le fais, je tente. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Chiffonner de la farine, j'ai le droit.
Ouais.
De toute façon, tant qu'il y a de la liberté dans un atelier, comme je dis, tant qu'il y a un pétrin de vide, j'en ai 4. Quand j'ai un four de vide dans mon.
Ouais.
Je peux. Être créatif ou prendre une direction créative, c'est prétentieux.
Je crois pas que ça soit prétentieux, moi, justement.
Et quand c'est plein, je suis que dans la production. Et cette vacuité qui est dans l'atelier, mais la vacuité dans le bon sens, permet de me dire, tiens, et les gars, c'est bon, on est bon, là. Allez, tiens, prends de la farine comme ça. Tiens, ce vin-là, qu'on met là, d'habitude, on va pas le mettre là. On va changer les fermentations. On va faire rencontrer les produits d'une autre façon. Voilà. Et ben, c'est ça, ces cheveux qui tirent. C'est cette intuition. Et après, demain, on va goûter. Et là, on aura la démonstration.
Bon, alors, je sais pas, on n'a pas le temps de parler de votre autre passion, là. Ça va tomber comme un cheveu sur la soupe.
Laquelle?
Bah, les mouches drosophiles.
Ah ouais, les petits drosophiles. Ah, ça, c'est rigolo. Ça, c'est fou. Je les ai rencontrés par hasard. Et comme tout le monde, hein, autour d'une coupe de. Moi, c'était un vigneron, il parlait de ses vins. Il était passionnant, hein, quelqu'un d'illustre, inconnu. Ouais. Et je regardais les petites mouches autour de lui, autour de sa tête, avec la petite lampe de cave toute pourrie. Et je les voyais avec des gros nez, des grosses ailes. Je les voyais tout rond. Je les voyais gentils.
Les mouches?
Bah ouais. Et c'est la mouche à vinaigre.
Ouais.
Et drosophile en grec, ça veut dire qui aime la rosée. Donc je rejoignais encore l'eau. Et le drosophile, de quoi il se nourrit? Eh bien, il se nourrit des levures autour des fruits.
Non, c'est pas vrai.
Ça, si.
Oh, mais c'est le cercle.
Ben ouais. Et ça c'est rigolo parce que ça tourne autour de moi. Mais c'est le pain qui m'a amené tout ça.
C'est le pain qui vous a amené aux mouches drosophiles.
Ouais, il y a là une petite mouche. Donc j'ai fait voilà.
Ah, vous faites c'est des fèves ça pour les galettes.
Ouais,
c'est
que je dessine, ouais.
que vous dessinez vous-même, et c'est des mouches.
Et c'est des mouches.
Bon, je vous réinvite pour qu'on fasse la première fois que vous êtes tombé amoureux d'une mouche drosophile.
Ah, puis c'est passionnant, la petite mouche, comment elles se séduisent entre eux. Elles font des petits proutes, et faut quand la petite femelle, elle veut pas être séduite, elle fait un petit, elle repousse par un petit. Il y a plein de trucs sur les drosophiles, c'est marrant.
Bon, alors on prend rendez-vous, Alex Croquet. En tout cas, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Votre boulangerie est à Lille, c'est ça?
Alors, la naissance, c'est Wattigny, où tout est produit. Et à Lille, c'est mon pas de porte. C'est mon petit pas de porte de 3,40 m.
Et vous avez un site internet?
Ouais.
Qui s'appelle?
Alex Croquet
quelque chose? Alex Croquet Footpain.
Ouais, ça va être ça. Ouais, Alex Croquet. C'est pas moi qui gère tout ça.
Bon, ça sera sur le site de l'émission. C'était une journée particulière. Une émission préparée par Rebecca Nenand. C'est Rebecca qui a eu l'idée de vous inviter. Elle a eu une très bonne idée. Alina Anne Delaveau à la réalisation, Flora Bernard à la programmation musicale, Djoubaka, et à la technique, Nasser Moussaoui. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et surtout podcaster cette émission et toutes les émissions, toutes les journées particulières. Tout de suite, après le flash, ce sera comme toujours Vincent Josse et son grand atelier à la semaine prochaine.